Chapitre 15. Elle était déjà dans le monastère depuis quelques mois lorsque Regina y fut amenée par sa grand-mère pour achever son éducation. Regina, gâtée et adulée jusque-là par sa grand-mère, et effrayée par le costume et par la vieillesse des religieuses, se jeta naturellement d'instinct dans l'idolâtrie de sa seule compagne, Clotilde. Les distractions des études de femme dans un cloître à demi-désert d'Italie n'étaient pas de nature à occuper beaucoup les heures et les imaginations actives des deux recluses de leur âge. On sait ce qu'était alors la vie de ces couvents, des cérémonies religieuses plus propres à fanatiser les sens qu'à édifier les âmes, des parfums, des tableaux, des fleurs, des musiques dans la chapelle, des livres mystiques, des processions, des rosaires sans fin et sans idée, des pratiques enfantines, des coutumes austères, des recueillements extérieurs, des méditations marquées au cadran à différentes heures du jour, un peu de musique et de poésie sainte enseignée aux élèves par des maîtresses affiliées à la maison, de lentes promenades dans l'enceinte cloîtrée, de longues solitudes imposées aux novices dans leurs cellules, la diversion de quelques visites de dignitaires de l'église, protecteurs du couvent, les sermons familiers de quelques prédicateurs célèbres de la paroisse au carême et aux avants, la monotonie dans le vide, l'importance dans le rien, un sensualisme pieux sanctifié par le mysticisme, voilà l'éducation de l'Italie et de l'Espagne alors. Il n'y avait pas de novicial plus propre à annuler toutes les facultés raisonnables et à en allumer ou à en égarer une seule, l'imagination. Aussi était-ce l'effet ordinaire de ces réclusions des jeunes filles. Piété dans les habitudes, vide dans l'esprit, passion dans le cœur. Telles sortaient de là ces véritables orientales de l'Europe pour entrer de l'ignorance et de la puérilité des cloîtres dans la liberté et dans la volupté de la vie. Mais Clotilde, avant d'entrer par circonstance dans ce couvent, à cause d'une absence de son père et d'une maladie de langueur de sa mère, avait reçu déjà dans la maison paternelle une éducation très supérieure à cette ombre d'éducation cloîtrée. Son père, sa mère, une gouvernante lettrée amenée par eux d'Angleterre à Rome, lui avaient enseigné de bonne heure, et presque au-dessus de la mesure de son âge, tout ce qui compose, à Paris ou à Londres, l'éducation d'une jeune fille accomplie. Elle avait étudié l'histoire, elle avait reçu les principes des arts, elle avait lu, par fragments, les grands poètes traduits de l'Antiquité, elle parlait trois langues, sans les avoir apprises autrement que par l'usage, le français, l'anglais, l'italien. Elle avait entendu chez son père et chez sa mère les entretiens sérieux des hommes distingués de ces trois nations, entretiens que les enfants n'ont pas l'air d'écouter, mais qu'ils retiennent. Les émigrés français eux-mêmes étaient des novateurs audacieux en comparaison des idées et des mœurs de l'Italie cloîtrée. Clotilde, quoique pieuse comme sa mère, planait, toute jeune qu'elle était, sur l'ignorance et sur la puéralité des dévotions de son cloître. Elle avait apporté au couvent quelques volumes de choix de ses meilleurs livres d'éducation anglais et français, que les religieuses romaines avaient admis sans les comprendre, et dans lesquels elle s'instruisait ou se charmait elle-même pour se préserver de l'oisiveté et de la contagion de commérage de ce petit monde séquestré de toute idée. Son exemple et sa conservation instruisaient plus Regina que les fastidieuses leçons de ses religieuses, ignorantes comme des enfants en cheveux blancs. Clotilde avait éprouvé pour Regina, au premier coup d'œil, la même inclination naturelle qui avait entraîné Regina vers la jeune française. La merveilleuse beauté de l'italienne avait été comme un rayon flottant sur les murs de sa cellule, son cœur avait bientôt suivi ses regards. La beauté, surtout quand elle est composée de ce mystère qu'on appelle charme, ne darde pas seulement du front de la femme dans le regard de l'homme. Elle impressionne différemment, mais elle impressionne aussi les yeux et le cœur entre de jeunes beautés du même sexe. Elle produit chez les hommes l'amour, chez les femmes l'admiration et l'attrait de l'âme. La beauté est un don inconnu et une puissance magique. Il n'est permis à aucun être vivant d'y échapper. Être belle, c'est régner. Ces deux jeunes filles sentirent l'une par l'autre cette puissance occulte de la beauté diverse, mais éclatante chez toutes deux. Cette diversité même, ou cette opposition de beauté, concentrée dans Clotilde, rayonnante, transparente, explosif pour ainsi dire dans Regina, fut peut-être à leur insu une des causes qui les attira davantage l'une vers l'autre. Les contrastes s'attirent parce qu'ils se complètent. Leur amitié devint l'unique sentiment d'existence qu'elles eussent ainsi dans cette solitude. Les petites filles qui venaient après elles étaient trop enfants, les religieuses étaient trop avancées en âge et trop submergées dans leurs minuties et dans leurs pratiques pour offrir aucune occasion d'aimer à ces deux âmes de 14 et 15 ans. Elles se sentaient refoulées sympathiquement l'une contre l'autre, et elles s'en réjouissaient intérieurement, car bien qu'innocentes contre leur cœur, leur amitié était jalouse, elles auraient été malheureuses de la moindre rivalité d'affection.